Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous, bienvenue sur RLP pour cette nouvelle émission de La Voix des Arts consacrée à l'artiste plasticien, peintre, sculpteur et plus précisément concernant son statut, sa professionnalisation, son rôle et sa fonction dans la société française d'aujourd'hui. Alors la fois précédente, je vous ai expliqué le fonctionnement de la Maison des Artistes, qui est le système gestionnaire de la sécurité sociale des artistes et les relations qu'elle entretient avec eux. Et pour cela, je me suis basée sur ma propre expérience, néanmoins confortée par d'autres témoignages. Alors mon expérience reste celle d'une artiste provinciale impliquée dans son environnement, même si j'ai exposé au niveau national et international, et dont l'art et expression sont en lien avec la tradition. Et à partir de cela, je me perfectionne pour que la technique soutienne au mieux ma créativité du moment. Alors dans l'émission précédente, qui est la numéro 17 de La Voix des Arts, je vous ai expliqué comment l'artiste remplissait ses devoirs en faisant ses déclarations et en versant ses cotisations à la MDA, c'est-à-dire la Maison des Artistes, dès qu'un bénéfice était perçu lors de vente d'œuvres. Et vous avez constaté que les devoirs à remplir vis-à-vis de cet organisme de sécurité sociale spécifique aux artistes plasticiens étaient clairs et catégoriques. Quant aux droits, ceux-ci sont soumis à conditions dépendant surtout de la capacité de l'artiste à faire de l'argent. Et en effet, là aussi, l'artiste citoyen moyen est soumis à rentabilité, puisque j'ai pu m'en rendre compte à mon détriment, tout simplement parce que je n'arrivais pas à vendre plus et à augmenter les bénéfices. De plus, les cotisations sont prélevées dès le plus humble des bénéfices, c'est-à-dire sur ce qui reste quand les frais sont prélevés. Alors c'est une règle qui m'avait été présentée à l'époque au début des années 2000 comme étant immuable et peu importe les conséquences dans votre vie. En tout cas, ces réglementations imposées créent des réalités peu simples à gérer, sachant que si le régime n'est pas identique à celui des intermittents du spectacle qui, selon les règles en vigueur, perçoivent rétribution pour déplacements, prestations, etc., c'est encore peu usité pour les professionnels, plasticiens, peintres, sculpteurs, qui normalement comptent sur des ventes pour éponger leurs frais et assurer leur subsistance. Cependant, les professionnels ou déclarés comme tels à l'administration peuvent quand même demander rétribution aux mairies qui font appel à eux et cela s'appelle le droit de monstration. Et ça se fait pour certains ou cela ne se fait pas, je n'en sais rien. À mon époque, je ne l'ai pas fait, mais c'est apparemment légalisé, bien que l'on n'entende pas beaucoup parler. Alors, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas, ou pourquoi ça l'est ou non? Point d'interrogation. J'ai assez cherché les réponses en mon temps. Je laisse un peu ceux qui sont dans le bain en ce moment chercher et trouver des réponses valables s'ils y arrivent. Alors, est-ce que les artistes maintenant utilisent davantage leurs droits de monstration qu'il y a quelques années? Encore une fois, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est qu'un grand nombre d'exposants se présentaient et se présentent toujours aux portes des salons pour montrer leurs œuvres lors de manifestations quelconques organisées par les associations et les mairies, auxquels se mêlent également les professionnels, du moins ceux qui sont déclarés, et ceux-là acceptent en général, comme les autres, de verser leur participation, qui peut être modique ou plus ou moins élevée. Et d'ailleurs, ceux qui ont davantage les moyens de régler, ce ne sont certes pas toujours les professionnels, qui exercent leur activité à plein temps. Alors pourquoi ces derniers exposent-ils dans de petites municipalités au milieu des soi-disant amateurs ? Alors, petite parenthèse, si vous vous souvenez, dans l'émission précédente, j'ai abordé le sujet avec les différences, notamment administratives, entre le professionnel et l'amateur, et développé le sujet sur d'autres plans avec quelques suggestions. Alors, revenons aux professionnels. Ils exposent, bien évidemment, pour des raisons qui leur appartiennent. Alors peut-être est-ce parce qu'ils sont invités d'honneur, ou qu'ils habitent à côté et aiment participer à la vie locale, ou bien parce que la somme demandée pour exposer n'est pas trop élevée, ou que les frais de déplacement sont moindres, ou ils espèrent faire leur publicité, peut-être vendre une pièce ou deux, que sais-je. Ou peut-être se disent-ils aussi que, vu le nombre de postulants, la mairie ne prendra pas la peine de rémunérer un artiste, peintre ou sculpteur sous prétexte qu'il est professionnel, alors qu'il dispose d'un panel de gens qui ne demandent qu'à se montrer. Et je ne suis même pas sûre que les mairies comprendraient de quoi il s'agit, tant la visibilité est problématique à obtenir dans le monde de l'art. Alors le droit de monstration, j'en ai déjà parlé, même à des organisateurs d'expositions, surtout lorsqu'ils me demandaient de participer. Je n'insistais pas outre mesure vu le contexte artistique, mais je soulignais quand même ce fait, surtout lorsque j'acceptais par esprit associatif et non pas par intérêt personnel. Alors ceci dit, et quelles que soient les raisons des artistes professionnels ou amateurs, quelle que soit la qualité des travaux présentés, ces manifestations ont le mérite de créer du lien social, de la convivialité, tout simplement de la vie dans la communauté, et favorisent aussi les activités commerciales dans les commerces alentours, que l'artiste vende ou non. Et ces activités commerciales locales ne sont pas à négliger pour une municipalité, ce qui constitue une bonne raison, entre autres, pour que celle-ci organise une exposition artistique, et de préférence, pourquoi pas, avec des artistes reconnus et ou dont la qualité se reconnaît au regard. Et c'est à la suite de ce que je viens de vous dire que je me permets de souligner l'une des fonctions de l'artiste que j'ai pratiqué allègrement en mon temps, que je vende ou non, et je l'ai fait pour des raisons diverses, dont une qui est celle d'animer et de créer du lien, car je reconnais que j'appréciais ces événements parce que je participais à amener de la vie, notamment dans nos campagnes périgourdines qui en ont besoin. Et je dois dire que je ressentais de plus du plaisir à retrouver et échanger avec mes camarades artistes, suivre leur évolution, puis me mêler au monde, discuter, boire un petit coup avec les uns et les autres. Bref, je voyais les gens heureux de se rencontrer, de se retrouver, de partager, d'échanger, d'oublier leurs soucis. Et c'est une ambiance que j'ai toujours aimée, parce que voir les gens sourire, rire et se détendre, et moi avec, évidemment, c'est agréable, sympathique et bénéfique pour la communauté dans son ensemble. De même, je trouvais que c'était gratifiant en tant qu'artiste de pouvoir valoriser un lieu, surtout en Périgord, que j'adore, ou de mettre mon art au service d'une cause lorsqu'elle se présentait avec des initiateurs dévoués et compétents. Bon, évidemment, il fallait que la cause me paraisse juste, humaniste ou utile, et ça l'était pour la défense animale ou la participation à des projets culturels, éducatifs, etc. Aussi, lorsque je recevais le public, je me suis toujours appliquée avec sérieux à présenter mes œuvres comme celles de mes camarades, sans hésiter à renseigner, initier, voire éduquer à l'art, lorsque je sentais que la personne avait besoin d'être accompagnée pour s'acclimater avec l'art, les artistes, etc. Et c'est d'ailleurs grâce à cette expérience d'artiste vécue pendant quelques années, et je peux le dire à vocation sociale, c'est-à-dire privilégiant les échanges fédérateurs et constructifs, que je peux me permettre de souligner cette fonction fédératrice que l'artiste est susceptible de remplir lorsqu'il expose et qu'en le faisant, il décore, anime, crée du lien, initie à l'art, éduque et fait venir du monde aussi pour consommer dans les commerces alentour. Et c'est un rôle social qui mérite d'être souligné auprès de tous et qui est quand même important dans nos campagnes, et je pense que les organisateurs en sont conscients. Et je dois ajouter aussi que parmi les initiateurs, organisateurs d'expositions dont j'ai fait moi-même partie, j'ai rencontré des bénévoles d'associations ou employés de mairie dont la coopération était très agréable et efficace, tant ces personnes étaient motivées par le désir de bien faire pour que tout se passe bien et que tout le monde soit satisfait, ce qui était généralement le cas. et je me permets donc de souligner en passant et également les compétences et disponibilités de ces bénévoles ou employés de mairie dont le rôle social à notre époque de confusion et d'opposition est quand même précieux. Voilà pour la petite parenthèse concernant l'une des fonctions sociales de l'artiste que j'ai dû abandonner par force avec mon statut pénalisant, car elle reposait sur mes seules épaules et donc sur mes forces physiques et matérielles, en dépendant à l'époque quasi exclusivement de la vente de mes créations. Il n'en reste pas moins vrai qu'en province, dans nos villes périgourdines et dans le monde rural, cette fonction sociale est utile et que, en collaboration avec mairie ou association, ce rôle était endossé plutôt par des peintres, des sculpteurs et donc ceux qui feraient surtout partie de cette catégorie en marge de la modernité, parce que relié encore à une certaine tradition avec des matériaux classiques pour une expression dont le rendu, peinture ou sculpture, peut se suffire à lui-même sans appui d'un discours. Alors ils sont mêlés aux artistes amateurs qui ont envie de montrer ce qu'ils font en exposant de temps en temps dans ces salons conçus aussi pour eux. Et les amateurs montrent les techniques qu'ils ont apprises en peinture, sculpture, modelage. Et c'est cette même parenté avec les médiums qui fait que les amateurs et professionnels se retrouvent logés à la même enseigne. Mais je dois dire que le relais, c'est-à-dire représenter des œuvres d'art au public dans les milieux ruraux, est quand même maintenant assuré par les institutions dont le personnel, lui, est rémunéré pour cela. Et en effet, les fonds départementaux ou régionaux d'art contemporain, donc l'État, achètent des œuvres à des artistes contemporains locaux, régionaux, qu'ils mettent à disposition du public grâce à des expositions itinérantes dans les villes alentours. Et donc, ils endossent à leur tour une fonction qui, certes, est sociale, mais s'axe plus précisément sur le culturel. Et ils travaillent en outre en coopération et concertation, parfois, avec des associations locales et régionales. Et c'est d'ailleurs ce que fait ici, à Périgueux, l'agence culturelle. Par contre, le choix des artistes reste en lien avec la modernité qui se réfère au conceptuel. Et en effet, on le remarque, les fonds d'art contemporain départementaux, régionaux, nationaux choisissent plutôt des œuvres qui doivent montrer une conformité aux valeurs de référence actuelles et qui sont celles découlant d'une vision unique de la contemporanéité, si je puis dire. Si bien que souvent les œuvres exposées pour la majorité ressemblent à des hybrides dans le sens où elles rentrent en résonance avec ce qu'exige la conception moderne de l'art et dans ce cas peuvent être tolérés les matériaux de la tradition, c'est-à-dire pinceaux, peinture, terre, etc. Si on ne peut pas faire autrement pour matérialiser le concept ou l'idée. Le concept et l'idée restent quand même les principaux éléments de référence dans le choix des critères de sélection. Et c'est aussi souvent pour cela, à mon avis, que le discours reste majoritairement, sans être exclusif, une fonction importante de compréhension et d'assimilation de l'œuvre qui est présentée. Alors pour en revenir aux artistes peintres ou sculpteurs reliés à la tradition, ils sont également souvent mélangés, voire confondus aux artisans lors de foires ou de salons locaux ou régionaux, encore une fois à cause de cette parenté avec les médiums, alors que dans l'esprit, des différences font qu'ils ne peuvent pas totalement revendiquer leur travail comme relevant de l'artisanat. Alors si vous vous souvenez, dans la première émission, j'avais essayé de différencier le travail de l'artiste avec celui de l'artisan, car il y a des points communs, mais il y a des différences que nous pouvons débattre, car le sujet est riche et que les frontières souvent sont minces. Bon, les tarifs aussi peuvent être différents et se justifient d'ailleurs, mais je souligne que cela n'a rien à voir avec la qualité du travail de chacun. Et un artisan peut avoir une technique beaucoup plus aboutie qu'un artiste parce que les vocations sont différentes. Alors je vais prendre mon exemple, j'utilise la terre et je partage ce même matériau avec les potiers. Par contre, le potier va vendre un bol entre 5 et 20 euros. Je vendrai une sculpture qui pourrait être de 10 à 100 fois plus chère que le bol, si ce n'est plus. Et en effet, le prix dépend ici pour l'artiste d'un engagement qui lui est propre, de son temps de travail, de la taille de l'objet, etc. Bon, quelques explications sont nécessaires. Il est certain qu'un bol, objet utilitaire, aussi beau ou bien travaillé ou original soit-il, demeure par nature une pièce fonctionnelle et simple, alors qu'une sculpture en terre ou une peinture, fruit de la liberté et de la créativité de l'artiste, exprime quelque chose de par nature en lien avec l'indicible, hein, on va dire ça, et cela engage souvent des plans bien plus profonds et subtils de l'être pour exprimer ce quelque chose d'impalpable. De plus, exprimer une idée ou une émotion à travers une forme reconnaissable ou pas peut demander des heures de travail, voire une maturation qui dure quelques semaines, si ce n'est plus. Et cette pièce qui sort des mains de l'artiste statue en général un état d'esprit qui ne sera peut-être plus d'actualité demain, ou en tout cas, sa matérialisation risque d'être très différente de celle qui est proposée sur le moment. Alors, ce sont des paramètres qui permettent de présenter cette œuvre aussi comme une pièce unique. Et c'est en partie ces raisons qui vont différencier sur un salon le travail des uns et le travail des autres que l'on a tendance à mêler parce que les médiums et techniques sont partagés. Bon, j'espère que je me suis bien fait comprendre, mais la frontière peut être très mince entre l'artiste et l'artisan. Et d'ailleurs, je connais des artistes considérés comme tels parce qu'ils créent des œuvres de l'esprit en totale liberté, qui préfèrent se comparer à des artisans parce qu'ils s'appliquent avec conscience, discipline, rigueur et régularité à leur travail. Et le savoir-faire des artisans est souvent très abouti et, comme je vous l'ai dit, il peut l'être davantage que celui de l'artiste d'un point de vue technique. Et si je prends mon cas, entre autres, le savoir-faire est là pour épauler et soutenir ma créativité, ce qui veut dire que je vais chercher la technique parce qu'elle sert mon élan créatif et me permet de donner corps à une expression. Alors que l'artisan, ainsi que doit l'être le détenteur de la tradition, il s'approprie au préalable, par l'apprentissage auprès de maîtres, peut-être, toutes les connaissances et les savoir-faire dans le but de restituer une qualité certifiée qu'il met dans un objet plutôt utilitaire, voire décoratif. Mais sa créativité peut aussi émerger, s'affirmer, d'où la difficulté parfois de trouver la frontière. Voilà encore une petite parenthèse à la fois pour rapprocher et différencier l'artiste de l'artisan, mais le débat est ouvert. Quant à la reconnaissance de l'artiste plutôt traditionnel par l'institution, bon, il est vrai que le fait de ne pas être reconnu et ou engagé dans le culturel par les institutions d'État implique également que vous ne receviez aucune aide ni soutien. En tout cas, c'était ainsi un moment, sauf peut-être si vous réussissez à vous faire un nom, mais je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet. Mais je suppose qu'un peintre encore vivant, connu au niveau national comme Garouste, par exemple, qui lui sait peindre, peut-être n'est-il pas soutenu ou aidé par l'État. Bon, de toute façon, il n'en a pas besoin car il fonctionne dans un circuit commercial efficace, mais bénéficie-t-il sans doute de ses entrées pour exposer dans les structures d'État ? Et ce n'est pas le cas, ou cela ne l'était pas, en tout cas pour les autres, les inconnus, même s'ils sont reconnus par ailleurs. Enfin, bien des complexités se constatent dans le monde artistique, qui décide et comment se font les choix, c'est parfois confus. Bon, après ce petit tour d'horizon sur la fonction de l'artiste et un état des lieux de l'art d'aujourd'hui, nous allons revenir sur le débat qui concerne artistes dits amateurs et ceux dits professionnels, ce qui avait créé d'ailleurs déjà à l'époque, dans les années 2000, la polémique, avec justement des débats plus ou moins houleux parce que les artistes professionnels obligés de se déclarer, de régler leurs cotisations et avec un prix de vente plus conséquent censé déterminer une qualité ou une côte ou inclure les charges, vous avez compris que ces artistes se sont vus noyés dans la masse d'une population amateur pressée de se montrer et de se rembourser à moindre frais leurs matériaux en vendant leurs productions, et cela ne se déclarait pas. Alors, dans ma position d'artiste professionnel, j'aurais dû prendre parti pour ma survie et rejoindre les mécontents. Mais pour moi, le problème se situe à un autre niveau, qui est celui des critères de professionnalisation et, par rapport à cela, de la reconnaissance du métier d'artiste et aussi de l'influence qu'une administration plus ou moins autiste et de plus en plus tentaculaire exerce dans la belle pagaille qui existe dans le monde artistique. Évidemment, les plus fragiles matériellement font les frais, mais rien de nouveau sous le soleil. Le monde de l'art reste à l'image de notre monde, malgré les bonnes volontés quand même. Alors le système s'est quand même réformé puisque certaines expositions exigent de l'artiste un statut, un numéro Siret pour l'exposer. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, ou du moins essayons de comprendre pourquoi. Alors l'une des raisons en serait que la réglementation s'est durcie, et sans doute faudrait-il demander confirmation, mais j'ai reçu une information comme quoi certains salons... Alors l'une des raisons en serait que la réglementation s'est durcie, sans doute faudrait-il demander confirmation, mais j'ai reçu une information comme quoi certains salons et expositions risqueraient des pénalités à exposer des gens susceptibles de vendre s'ils ne sont pas déclarés avec un statut d'artiste. Alors c'est ce que j'ai entendu de la part d'artistes, entre autres. En tout cas, je constate dans la réalité que de plus en plus d'expositions ou salons intéressants, susceptibles moi-même de m'intéresser en tant qu'exposante, demandent aux artistes un statut légal avec numéro Siret, etc. Mais peut-être que ce sont les artistes eux-mêmes, via associations représentatives, qui pour être sûrs d'être représentés avec professionnalisme, et le professionnalisme reste quand même gage de sérieux et de qualité, qui ont imposé cette exigence. Ou bien, en effet, est-ce l'administration, avec les raisons qui lui sont propres, hein, contrôle et prélèvement de cotisations, en respect des règles qu'elle a fixées, qui contraint, obligeant par là même le pseudo-artiste à se déclarer s'il veut voir sa vie artistique se développer. Alors, comment vérifier ? Encore demander à une administration ou un juriste, je ne sais plus. En tout cas, la professionnalisation de l'artiste est vraiment devenue un sujet incontournable, tant il peut être lourd de conséquences pour les administrations, pour les institutions et par conséquent pour l'artiste lui-même, au centre des débats et des enjeux, et cela qu'il le veuille ou non. Et c'est quand même grâce à lui que tous ces systèmes existent, fonctionnent et vivent. Alors nous venons de faire un petit tour d'horizon qui n'est certes pas complet, mais qui donne quand même quelques indications sur la position, la place de l'artiste en France au XXIe siècle. Bon, j'ai abordé mon propre cas parce que j'ai vécu une expérience qui m'a confrontée à bien des problèmes réels, spécifiques, partagés par d'autres comme cas similaires au mien. Mais bien entendu, tous les artistes ne fonctionnent pas de la même manière, ne reçoivent pas le même traitement par les différentes instances, et de plus, les médiums imposent leurs contraintes spécifiques. L'État français, via ses administrations et ses institutions, impose des règles, alors elles se recoupent ou elles sont contradictoires. Au final, rien n'est simple. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, je ne peux pas dire autrement. Et là, en effet, le flou règne dans le monde artistique encore à bien des niveaux, peut-être moins que dans les existences de bien des artistes plutôt en instabilité sociale et matérielle. Alors, comme vous le savez, nos régions ont fusionné. Nous vivons actuellement dans une grande région qui englobe le Limousin, l'Aquitaine et le Poitou-Charentes et qui se nomme maintenant Nouvelle-Aquitaine. Des restructurations administratives ont lieu. Et en ce qui concerne le monde artistique, une initiative nouvelle a vu le jour en Nouvelle-Aquitaine, impulsée par les différents acteurs des arts visuels et qui a pour nom Sodavie. Alors, qu'est-ce que Sodavie ? Bon, je vous lis ce que j'ai reçu. Sodavie, schéma d'orientation pour le développement des arts visuels, est une démarche de concertation initiée de manière conjointe par l'État, c'est-à-dire le ministère de la Culture et de la Communication et la DRAC Nouvelle-Aquitaine, donc la Direction régionale des affaires culturelles, associée à la région Nouvelle-Aquitaine et les trois réseaux d'art contemporain du territoire que sont Cartel, 525 et Fusée. Alors que font-ils ? Eh bien pour le moment, ils essaient de faire un état des lieux, des arts plastiques et visuels de la région dans le but de réformer, de développer et d'optimiser ces secteurs. Alors comment s'y prennent-ils ? Eh bien, en mobilisant tous les acteurs de l'art et de la culture du territoire, que ce soit l'institution, les associations et les artistes. Et pour cela, ils organisent des journées dans lesquelles ils abordent des thématiques concernant l'économie de l'artiste, l'artiste et le territoire, l'artiste et son écosystème. Le but est de travailler sur les problématiques pour déboucher sur des préconisations concrètes. C'est ce que je lis là. Alors, une enquête est réalisée auprès de tous les artistes et des acteurs culturels dans le but de réaliser cet état des lieux. Et vous retrouvez toutes les informations sur leur site. Hein. Il suffit de taper Sodavie et le moteur de recherche vous aidera à trouver le site. Donc, Sodavie, S-O-D-A-V-I, hein. C'est simple. Et si ça vous intéresse, en tant qu'artiste ou acteur culturel, vous pouvez y jeter un coup d'œil et peut-être même participer aux ateliers et chantiers qu'ils organisent un petit peu partout dans la région. Bon, j'arrive maintenant au bout de ma présentation, en espérant que ma façon d'aborder ce sujet sérieux n'était pas trop rébarbative. Mon but était d'éclairer modestement, avec ce que je sais, cette réalité du monde de l'art et de l'artiste d'aujourd'hui. Je m'appuie sur mon expérience, qui n'est certes pas la seule à prendre en compte, car d'autres éclairages, témoignages seraient les bienvenus pour compléter et nous faire remarquer d'autres aspects de la réalité artistique. Cependant, j'ai essayé de souligner, tant que faire se peut, ce qui met en danger l'artiste, ce qui fait sa singularité et comment il participe à la vie sociale, même si ma présentation reste encore imparfaite et inachevée. Alors voilà tout ce que je peux vous dire pour le moment, en attendant la prochaine émission. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt. C'était Christine Darboux, La Voix des Arts sur Radio Libre en Périgord. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.